ללו נשמת אסתר בתמימי, תראה נשמתה הצרועה בתור החיים. שלום עטות, על אדמון במקוזים, גננים, לכל הממואר במטן, זכמה לברכה. On va dire quelques paroles de Torah, Bezrat Hashem. Et comme nous avons une mitzvah de parler toujours de la période dans laquelle nous sommes, il est très important de coller les paroles de Torah que nous disons et de les coupler avec ce qui est en train de se passer. Ça, c'est d'une manière privée, c'est-à-dire que maintenant, nous sommes dans la période du Homer, donc c'est bien de parler du Homer, mais d'une manière générale, on peut élargir l'idée. Et c'est bien de parler de sujets qui sont en rapport avec la génération dans laquelle nous sommes. Pour ne pas que les gens se sentent complètement déconnectés entre ce qu'ils étudient dans la Torah et la réalité qui est devant eux. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens un petit peu quittent l'étude de la Torah parce qu'ils n'ont pas la conscience, ou le sentiment en tout cas, que ce qu'ils sont en train d'étudier les aide dans la vie pour quelque chose. Et c'est pour ça que les sages nous disent et nous préconisent de toujours étudier des choses qui sont en rapport avec la situation dans laquelle nous sommes. Et au niveau plus petit, c'est-à-dire au niveau des fêtes, parler du Shabbat pendant le Shabbat, de Pessah pendant Pessah, et au niveau clali, de la période dans laquelle nous sommes. Moi, je voulais vous poser une question d'abord. Quelle est la différence entre Pessah que nous avons quitté et savoir que nous n'avons pas encore atteint? On est dans une période qui est au milieu, et nous avons deux points de lumière. Premier point, c'est Pessah, et l'autre point, c'est savoir. Au milieu, on est dans un moment de tourbillon, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que cette période-là. Alors il y en a qui disent que c'est la période qui sépare Pessah et savoir. Moi, je préfère la définition qui dit que c'est la période qui unit Pessah à Shavuot. Remarquez bien que entre Pessah et Shavuot, il y a exactement 7 semaines. C'est-à-dire que nous avons quitté le premier jour de Pessah, Yom Tov, et 7 semaines plus tard, exactement, nous avons Shavuot. Ça veut dire qu'il y a 7 semaines qui séparent ces deux pôles de lumière. Je vous pose une question très simple. Combien de jours dure Pessah? 7, 8, tout le monde a faux. Tout est faux. Vous avez tous faux. Pessah dure une nuit. Pessah, c'est le corban de Pessah. Tout le reste de 7 jours s'appelle Hagamatzot. Jamais on a vu une semaine entière de Pessah. Ça n'existe pas. Tout le monde se trompe. Le Pessah, c'est le corban, c'est le sacrifice de Pessah. Il ne dure qu'une soirée. Quand on a mangé le Pessah, qu'aujourd'hui c'est le Hatikoman pour nous, c'est fini. Pessah est terminé. Tout le reste, c'est une semaine de Chag HaMatzot. Donc, moralité, Pessah n'a duré qu'une journée. Et Shavuot, en Eretz Israël, va durer aussi une journée. C'est-à-dire qu'on a une journée au début, une journée à la fin. Et imaginez-vous maintenant que c'est un grand, grand, grand moment de fête, où il y a un premier jour de Yom Tov, 7 jours de Chol HaMoed, et encore un jour de Yom Tov. Où est-ce qu'on a une chose pareille? Soukot. D'accord? Soukot, on a le premier jour de Soukot, Yom Tov, 7 jours de Chol HaMoed, et le 8e jour, qu'est-ce que c'est? Shmini Atzeret, Simchat Torah. C'est très bizarre, parce que, en réalité, ce que nous avons au mois de Tishrei pour la fête de Soukot, on l'a au mois de Nissan, Iyar et Sivan, pendant Pessah, le Omer et Shavuot. À la seule différence, c'est qu'au lieu qu'il y ait une semaine entre les deux Yom Tov comme à Soukot, nous avons 7 semaines, beaucoup plus larges, entre Pessah et Shavuot. Ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement que entre Pessah et Shavuot, c'est une seule fête. On n'a pas le droit de les séparer. La preuve, c'est que Shavuot n'a pas de date dans la Torah. n'est pas à marquer le 7 du mois de Van, vous allez faire la fête de Shavuot. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est Shavuot? C'est tout simplement par rapport à Pessah. C'est-à-dire 50 jours après Pessah, vous aurez Shavuot. Donc si Pessah est telle date, je concède 50 jours, qu'on appelle le Romain, et nous avons la fête de Shavuot. Moralité, les kabbalistes nous disent que Shavuot et Pessah, c'est une seule fête. Et tout ce qu'il y a au milieu, ça s'appelle Chol HaMoed. Ça veut dire qu'on est en plein Chol HaMoed. Est-ce que vous avez écrit jusqu'à maintenant qu'on n'a pas le droit, par exemple, de se couper les cheveux parce que c'est une période de deuil, du Romain? En réalité, les sages nous disent que ce n'est pas pour ça. On ne se coupe pas les cheveux parce que c'est comme Chol HaMoed où on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Donc c'est complètement à l'inverse de ce que nous avons reçu. Justement parce qu'il s'est passé quelque chose après, dans cette simcha, qui devait être une simcha, il s'est passé quelque chose qui est la mort des 12 000 élèves multipliés par deux, des pères d'élèves, dit la Gemara, de Rabbi Akiva. Et c'est pour ça qu'il y a une période, en fait, qui est descendue. Mais la base, ça n'a aucun rapport avec ça. Okay? C'est tout au niveau de la simcha. Pourquoi c'est au niveau de la simcha? Tout simplement parce que la période du Homer est une période d'élévation. Et c'est ça le but du Shiur. Maintenant, je vous ai fait un petit rapport entre les deux mois. Okay? Les mois d'été et les mois d'hiver. Si vous remarquez bien, l'année est divisée en deux parties. Il y a 6 mois d'été et 6 mois d'hiver. Les 6 mois d'été commencent à Nissan. C'est le premier mois de l'année par rapport à la Torah, c'est Nissan. Donc nous avons Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av et Loul. Et après nous avons 6 mois d'hiver qui vont commencer à Tishrei. En Tishrei, Chesvan, Tishrei, Tevet, Shvat, Adar. Tout ce qui va se passer dans les mois de l'été, il y a la même chose correspondant dans les mois d'hiver. Alors, quelle est la différence entre mois d'été et mois d'hiver? Les sages dans la Chassidut nous expliquent que les mois d'été sont des mois féminins. Et les mois d'hiver sont des mois masculins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est en potentiel dans les mois d'hiver va se réaliser dans les mois d'été. Qu'est-ce que c'est les mois d'été? À partir de Nissan, donc la terre va donner, quand vous sortez maintenant, vous avez des fleurs, vous avez des fruits, vous avez toute la terre qui a donné. C'est comme une femme qui était enceinte et qui vient d'accoucher. Le peuple d'Israël est né quand? À Nissan. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grossesse et le mois de Nissan, c'était l'accouchement du peuple d'Israël. Alors que le peuple d'Israël, l'idée d'Israël a été conçue quand? En été, à Tishrei. Et c'est pour ça que à Tishrei, qu'est-ce qu'on dit pendant la Tfila, ceux qui comprennent un petit peu l'hébreu, Hayom, à chaque fois qu'on sent du Tophar, Hayom Harat Olam, Adihara, Herayot. On est dans la grossesse du monde, alors que la Leïda, l'accouchement, c'est à Nissan. Donc nous sommes en plein maintenant dans des mois féminins, c'est-à-dire des mois de dévoilement. Tout se dévoile, comme c'est la femme, le bébé était en potentiel dans la tête, dans le cerveau du papa, donc il n'était pas vivant. Mais quand est-ce qu'il est sorti vraiment à la vie, quand est-ce qu'il est venu à la vie, quand il est passé, c'est la maman. C'est-à-dire que tout ce qui est en potentiel dans les mois d'été, d'hiver, c'est ça, masculin, va sortir et se dévoiler dans les mois d'été. Maintenant, vous comprenez pourquoi, pendant les mois d'hiver masculin, il y a seulement 7 jours de Chol HaMoed, alors que dans les mois d'été, ça devient 7 semaines, parce que tout se voit beaucoup plus grand. Et la même chose, le premier jour de Yom Tov, de Sukkot, le 8e jour s'appelle comment, vous l'avez dit, Aseret. Comment s'appelle la fête de Shavuot dans la Torah? Chag, Aseret, la même chose. C'est la correspondance parfaite. Chag, Aseret. Chag, Aseret. Donc nous avons une correspondance. Et je ne veux pas maintenant m'étaler sur ça, mais c'est extraordinaire de voir, de faire le jeu de la différence entre tous les mois masculins, tous les mois féminins. Vous allez voir qu'en réalité, à Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde mâle et femelle, c'est pas seulement l'homme et la femme qu'il a créé. C'est tout. Toute la création est créée mâle et femelle. Tout ce que vous voyez dans la création, c'est mâle et femelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mal et femelle? À chaque fois que vous allez voir quelque chose de concret, ça sera femelle. Et le mal, c'est le côté caché avant que cette chose ne se dévoile. Par exemple, si vous ouvrez un livre, par définition, le livre, c'est quoi? C'est femelle. Parce qu'il y a déjà collé un texte dessus et tout ça. Alors que l'idée, avant d'écrire le livre, c'est le côté mâle, côté masculin. Donc tout ce monde, en fait, est un monde féminin. Et ce monde féminin, c'est celui qui va dévoiler, dans lequel on va dévoiler toute la puissance. Maintenant, je voulais poser la question, quelle est la différence entre Pessah, donc le premier jour de cette période-là, maintenant on s'occupe que des mois d'été. Pessah, le premier jour, Shavuot, le dernier jour. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé à Pessah? Pessah, il s'est passé, c'est très simple, la sortie de l'Égypte. Qu'est-ce que c'est la sortie de l'Égypte? C'est une libération. Une libération qui vient de qui? De l'homme ou de Dieu? C'est la Kadosh Baruch Hu, d'accord? Est-ce que le peuple d'Israël était prêt à sortir, oui ou non? Non. D'où on le sait? C'est marqué dans la Gada de Pessah, Ve'at, Ve'erom, Ve'eria. Tu es toute nuit, nous dit la Gada de Pessah, ni de quoi? Ni de toutes les mitzvot, tu n'as rien encore. Ça veut dire l'assemblée d'Israël était tellement basse, à 49 degrés d'impureté, qu'on ne pouvait pas sortir. Alors je vous pose la question, comment on est sorti malgré tout? Par quel miracle on est sorti? Tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, il est intervenu du haut vers le bas. C'est-à-dire, Goy, Mikelev Goy, Beyat Hazaka ou Bizroa Netuya. Je suis venu dans ce monde et je vous ai forcé à une Géoula en fait. Je vous ai donné une Géoula gratuitement alors que vous ne la méritez pas. Je vous pose la question encore une fois. Est-ce que cette Géoula est une bonne Géoula ou une Géoula qui n'est pas très agréable? Elle peut être bonne. Les Chachamim nous disent que pas très. Pourquoi? Parce que c'est pas une Géoula où tu as fait quelque chose pour être sauvé. On est venu te prendre malgré toi. Une vraie Géoula, c'est une Géoula où il y a une participation de l'homme. Où l'homme va faire quelque chose. Ce qui fait que le premier jour de Pessah, effectivement, il y a une Géoula. Donc la seule journée, Pessah, Géoula. Le lendemain de Pessah, je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais on ne fait plus le Hallel complet. Pendant même Chol HaMoed de Pessah, alors que le premier jour de Pessah, le Hallel est complet avec Bracha.
C'est deux jours.
Non, une journée. Une journée. Il n'y a pas, en Eretz Israël, c'est une journée. Il n'y a pas de premier jour de Pessah. En Israël, il y a une seule journée. Il n'y a pas deux jours. Hein? Non, ça n'existe pas. C'est en Chutz La'aretz qu'il y a deux jours. Parce que c'est deux jours de Yom Tov. Mais ce n'est pas ces deux jours. Hein? Non. Non, je parle du Hallel complet avec la bracha. Okay? Tant qu'il y a la fête originelle, on va dire, c'est une journée de fête, pas deux. Okay? Qu'il y a eu deux jours maintenant en route l'arrêt, c'est parce que les messagers n'arrivaient pas jusqu'en route l'arrêt et tout ça, plein de halakhot. Mais le premier jour, le Hallel est complet. Dès que le Hallel n'est plus complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Alors, si le Hallel est complet le premier jour, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir une Géoula. Le lendemain, on commence à faire quelque chose qui dure jusqu'à encore maintenant et qui va durer jusqu'à Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait dès le lendemain? D'ailleurs, même en Chutz La'aretz, où c'est le deuxième jour, on fait déjà le Homer pendant la lecture de la deuxième Agada, entre guillemets, qui va pas ensemble de classe. C'est-à-dire, on lit la Agada de Pessah, et on est déjà en dehors de Yom Tov, on est Eretz Israël, et là-bas on est encore dans un Yom Tov. Il y a quelque chose qui est bancal. Non, bien sûr.
Pourtant,
c'est parce
qu'il a entendu leur cri qu'il a décidé de
les faire et de raccourcir. Il a fait. Ça veut dire que s'il était capable de faire, on va leur donner ça au crédit, c'est de ce plan, de pousser les cris. Ça veut dire qu'ils souffraient beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont encore fait quelque chose pour se faire délivrer. Ça va? Ça veut dire que l'homme n'a pas fait encore une participation de lui-même. Et ce n'est pas un état normal. Le Zohar dit que ça ressemble à une fille de 40 ans qui se trouve encore dans la maison de ses parents et que chaque jour elle s'assoit pour manger à midi sans rien faire. Sans rien faire, ça veut dire que la mère vient et faire. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est pas une synthèse du tout, elle commence à se sentir très mal parce qu'elle ne fait rien et elle sent qu'elle est encore en train de rater sa vie. C'est-à-dire qu'elle est encore dans la maison de ses parents. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, au moins pour faire quelque chose? C'est elle-même qui va cuisiner, elle va faire le ménage, elle va faire des choses pour participer. Ça ressemble à ça exactement. Le peuple d'Israël, quand il ne fait rien et qu'il reçoit une géoula gratuite, il souffre, il ne se sent pas bien. Moralité, on va nous donner quelque chose pour réparer ce mauvais sentiment. Et alors, et qu'est-ce qu'ils ont fait Abraham, Yitzhak, Yaakov et tout cela avant la Torah? 2000 ans, le monde a existé sans la Torah. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que la Torah, elle vient, est-ce que la Torah vient avant la vie ou est-ce que la Torah vient après la vie? Pas du tout. Pas du tout. Derer Eret Kadma la Torah. Les sages nous disent que le chemin de la terre, c'est-à-dire la vie, c'est celle qui vient en premier. La Torah, c'est parce que je suis vivant. Si je ne suis pas vivant, elle ne me sert à rien, la Torah. C'est-à-dire que la Torah va venir parce que j'ai déjà une vie et j'ai déjà quelque chose de prêt dans ma vie. Je ne peux pas commencer la Torah, okay, comme si on remplissait la Torah dans la tête de quelqu'un qui n'a pas encore les mesures pour contenir cette Torah-là. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce qu'ils étudiaient? Il n'y avait pas encore la Torah, qu'est-ce qu'ils étudiaient? Les Midot, Yafenod. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Étudier les Midot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient des Yeshivot. Qu'est-ce qu'on étudiait dans ces Yeshivot puisque la Torah n'est pas encore dans ce monde? Alors on fait rien. Ils ne connaissent même pas Moshe Rabbeinu, ok? Il n'est pas encore existant, il n'est pas encore sorti. C'est ce qu'ils font. Alors je vais vous donner un secret. Il y a une Gemara, une Mishnah en fait, qui s'appelle Maseches Avot. Vous la connaissez? Maxime de Père en disant en français. Maseches Avot. La Gemara dans Baba Kama, elle dit, ça c'est une chose, c'est que quand les Chachamim disent quelque chose, il faut entendre. Si tu dis Avot, Abba, donc les pères, ça veut dire qu'il y a des fils. D'accord. Mais quand tu dis Abba, c'est Toléda. Je suis le père de mon fils. Je n'ai pas dit mari. Quand je suis père, ça veut dire que j'ai un fils. D'accord? Or, s'ils appellent cette Gemara, cette Mishnah, Maseches Avot, la Gemara des pères, ça veut dire que quoi?
Les enfants.
Des enfants. Alors, tenez-vous bien, les Chachamim nous disent que toutes les autres Gemaros sont seulement comme des enfants pour cette Gemara-là. Ça veut dire que la matrice, le père de toute la Torah orale, de toutes les Gemaros, de toutes les Mishnayot, c'est Pirkei Avot. Alors que Pirkei Avot, ce n'est même pas de la Torah. C'est un mode de vie, c'est une éthique de vie, c'est une morale de vie. Et pourquoi? Encore une fois, Derek Eret, il dit Shneh, Kadma la Torah. Et donc les sages, Abraham, Isaac et Jacob, nos pères, étudiaient Pirkei Avot. Et ce Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il vient nous donner? Alors, avant de rentrer dans Pirkei Avot, Pesach, on a reçu une Géoula gratuite. On a dit que la Géoula gratuite n'est pas bonne pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de faire un travail, de mériter. Comment on fait ce travail-là? C'est ce qu'on appelle Sfirat HaOmer. Et maintenant, les gens qui ne comprennent pas le Omer, ils se disent, bon, on va compter tous les soirs, on compte un chiffre. Aïe, c'est pas ça, Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est très, très, très pointu, c'est très compliqué, c'est un travail. On a un groupe d'études tous les matins pour savoir qu'est-ce qu'on va faire toute la journée. Ça veut dire à chaque fois qu'on a compté un chiffre du Homer, à chaque fois qu'on a compté une journée du Homer, on va essayer d'appliquer, de savoir qu'est-ce qui va se passer toute la journée de ce Homer-là. C'est pas n'importe quoi. Juste avant d'arriver, il y a un copain à moi qui me téléphone d'un pays lointain, l'Okhachou. Très très loin. Il me dit qu'il a raté le 28e jour du Homer. Et il s'est aperçu le 29e déjà, que c'était. Lui, il avait compté le 29 pendant le 28. Et c'est trompé. Quand il a vu tout le monde compter le 29, il dit, mais là, j'ai déjà compté hier soir, c'est fini, il ne peut plus compter avec bracha. Donc le type, il n'était pas bien, il m'a téléphoné pour confirmer s'il ne pouvait plus compter avec bracha, et je lui ai dit qu'effectivement, il ne peut plus compter avec bracha. Il me dit, alors qu'est-ce que je fais? Jusqu'à la fin. Il va compter, mais sans bénédiction. Mais c'est quand même un coup. C'est frustrant. Alors je lui ai dit, écoute, deux choses. Une, ou tu prends la chose mal, ou tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait un cadeau. Quel est le cadeau? Il m'a dit, comment il m'a fait un cadeau? Je lui ai dit, écoute, si tu as raté cette journée-là, c'est que cette journée-là, c'est ton tikkun dans ce monde. Il m'a dit, mais pourquoi j'ai raté? Je lui ai dit, justement, parce que tu n'as pas fait attention à ce que c'est. Alors il me dit, alors explique-moi ce que c'est le 28e jour du Homer. Alors j'ai fait un calcul avec lui, et je lui ai montré qu'est-ce que c'est le 28e jour du Homer, à quoi ça correspond dans ta vie. Et j'ai commencé à lui raconter, maintenant il y a une demi-heure. Tout ce qui n'a pas dans sa vie, que par rapport à ça. Il m'a dit, mais tu sais. Je lui ai dit, parce que ce compte-là, si tu sais le décoder, tu vas t'apercevoir de toutes les faiblesses que tu as dans ta vie. Il m'a dit, mais ça fait 15 ans que j'ai toutes ces faiblesses que tu es en train de me raconter maintenant.
Okay.
Mais ça représente quelque chose. Au niveau des degrés du corps, ça représente quelque chose. Alors je lui ai dit, tu as des idées, mais tu n'arrives pas à les assumer, tu n'arrives jamais à continuer quelque chose quand tu commences. T'as un problème de ce côté-là, même avec ta femme, machin, ça. Il était convaincu. Pourquoi? Pas parce que je suis un saint, mais tout simplement parce que chaque jour correspond à un point précis. Et si on comprend ce secret-là, on comprend qu'en réalité, tous les jours du Homer, on a un travail spécial. Et ce travail spécial, c'est le tikkun de Mido. Ce qu'on a appelé tout à l'heure tikkun Hamido. Alors qu'est-ce que c'est ces Midot-là? Une fois qu'on va arranger les Midot, on va arriver à l'autre point de lumière qui s'appelle Chaga Shavuot. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est si c'est ça que j'ai eu une Géoula gratuite, est-ce que Shavuot, j'ai eu une Torah gratuite ou pas? Cette fois-ci, non. Ça veut dire que la fête de Shavuot, quand je reçois la Torah, elle vient de qui, en fait? De la capacité de l'homme à recevoir. Ça, c'est le grand secret. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous avez cru que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il nous a donné la Torah, débrouillez-vous. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça, c'est pas ça. Dieu est descendu dans le monde, il nous a sorti d'Égypte, et maintenant il nous a dit, maintenant débrouillez-vous, montrez-moi que vous pouvez marcher tout seul. Le Baal Shem Tov dit à la Vachalom, ça représente un petit enfant qui au début ne sait pas marcher, alors on le tient par la main, on le met debout, et dès qu'il fait un pas, on lui lâche la main. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Ou il continue à marcher, ou il tombe, il s'assoit. Et s'il continue à marcher, le père est là, ou la mère, et il montre les mains, et il s'approche. À Kadosh Baruch Hu, quand il nous a sorti d'Égypte, il nous a pris comme un bébé, il nous a posé, il nous a dit, allez, venez, viens. Et tout doucement, on marche, petit à petit, jusqu'au camp, Shavuot. Ça veut dire que Shavuot, c'est mérité. On va arriver à Shavuot avec un mérite. Mais ça veut dire encore plus que ça. Mais ça devient un petit peu plus délicat. Quel est le degré et la qualité de la Torah qu'on va recevoir chacun de nous à Shavuot? J'ai dit chacun de nous parce que chacun de nous va recevoir une Torah différente. Dieu va donner une Torah, d'accord? La Torah est une, mais quand elle arrive dans ce monde, elle est déjà deux, minimum. Ça veut dire que c'est le minimum du pluriel. Et c'est pour ça que nous avons, mâle et femelle, Shnei Luchot Habrit, les deux tables de la loi. Alors que Dieu donne une Torah, dès qu'elle descend dans ce monde, déjà elle devient deux. C'est très bizarre ce phénomène. D'ailleurs, David Amelé, dans les pays, il dit Achat diber Elohim, Stein zu shamati. Quand Dieu parle un, moi j'entends deux. Pourquoi Dieu parle un et moi j'entends deux? Essayez de réfléchir un petit peu. Deux. Plus élevé, mais toujours dès que ça arrive dans ce monde, c'est obligé d'apparaître en dualité. Parce que ce monde-là, il est basé sur quoi? Quelle est la base de ce monde? Pourquoi à chaque fois que quelque chose descend dans ce monde, il est obligé de deux, minimum? Quand je dis deux, ça veut dire des millions après. C'est le minimum du pluriel. Pourquoi? C'est basé sur la réflexion. Et quel est le phénomène qui gère notre vie ici? Un, c'est Hachem, mais pourquoi lui il est un et nous sommes deux tout le temps? Le temps. T-E-M-T-S. Est-ce que le temps existe à Kadosh Baruch Hu?
Non.
Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que le temps? C'est la distance entre deux points. C'est-à-dire que quand Kadosh Baruch Hu a créé ce monde, il a créé par... C'est la même chose. Le temps et l'espace vont ensemble. Ça veut dire que je ne peux pas mesurer du temps s'il n'y a pas d'espace. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est le temps? C'est la distance entre deux points, obligatoirement, d'une manière logique, naturelle. C'est qu'en fait, je mesure le temps. Je suis parti de Tel Aviv, je suis arrivé à Yerushalayim. Donc j'ai un temps. Mais si j'ai la source et le résultat collé, comme c'est à Kadosh Baruch Hu, le temps n'existe pas. Ça va plus loin. Si le temps n'existe pas, qu'est-ce qui n'existe pas non plus? Il y a du temps. Mais qu'est-ce qui n'existe pas? Le changement. Il n'y a pas de changement. Alors le temps va nous donner une capacité à changer. Alors que si la source et le résultat sont collés, il n'y a pas de changement. La Kadosh Baruch Hu dit, Ani Hashem, Lof Aniti. Moi, je ne change pas. Vous, vous êtes soumis au changement. Vous êtes tout le temps en train de changer. C'est pour ça que le changement en hébreu, il tire sa racine, comment on dit changement? Oui, c'est la même racine que changement égale 2. Obligatoirement. Dans l'unité, dans le Echad, il n'y a pas de changement. Or, on va aller un petit peu plus loin. Quelle est la plus petite mesure du temps? La seconde. La seconde. Shnia. Deux. Ça veut dire que ça n'existe pas une. Le temps est toujours 2, obligatoirement. Okay? Dans toutes les langues, la petite mesure, c'est le 2, la seconde. Pas la première, la seconde. C'est-à-dire, quand vous comprenez ce secret-là, ça veut dire que Dieu parle en code 1, et dès que ça descend dans ce monde, automatiquement, ça se divise en code 2. Maintenant, pourquoi la Torah commence par Bet? Vous comprenez? Ça ne peut pas commencer par Aleph. Aleph, c'est l'unité. Ça ne marche pas. Donc c'est pour lui. La Torah, elle est pour qui? Elle est pour nous. Donc, elle est obligée de commencer par B. Si tu prends une Gemara, n'importe laquelle maintenant, par quelle page commence la première page de la Gemara? Par le B. Il n'y a jamais de Gemara page Aleph. Ça n'existe pas. Si vous voulez embrouiller quelqu'un, vous lui dites, tu sais ce qui a marqué dans la Maseret Brachot à la page 1? Il va te dire, bien sûr, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Hein? Non. Hein, toi, de l'homme? L'homme fait par rapport à ce qui se passe réalité dans ce monde. Ça veut dire que les Chachamim, quand ils ont décidé, parce que c'est comme ça, parce que c'est ça la nature de l'homme, c'est le 2. Nous sommes dans un 2. Donc moralité, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Zahar, Mekeva. Et tout ce qu'on dit, Laila, Veyom, Or, Vechosher, Tatati, Tatata, tout le temps, Vaye Ere, Vaye Boker, tout est 2. Vous comprenez maintenant pourquoi ce degré-là, il nous permet de changer. C'est à Kadosh Baruch Hu, le temps n'existe pas. Si le temps n'existe pas, le nom de Dieu, c'est Yud Kev, après le tétragramme, c'est quoi? Qu'est-ce que vous lisez dans le tétragramme? Tout le temps. Haya, Hove, il y a le passé, le présent, le futur. Bon, le nom de Dieu, il y a tout. Ça veut dire passé, présent, futur, se trouve dans son nom. Il n'est pas soumis au temps, donc il n'est pas soumis au changement. Il n'est pas mesuré, il n'est pas limité. Alors je reviens à notre histoire. Pessah, on a eu une Géoula gratuite. Shavuot, on va recevoir la Torah. Seulement la Torah, on ne va pas la recevoir en bloc. Chacun de nous va la recevoir différemment. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Si tu vas, il y a combien d'années? Hein? 3300 à peu près. 3300 ans. C'est vrai ou c'est faux? Alors, je vais vous donner un petit bout. C'est faux. La Torah, on la reçoit chaque année à la même date. C'est pas différent. Celui qui ne comprend pas ça, et qui croit qu'en réalité on parle d'une histoire qui s'est passée une fois, ne comprend rien au judaïsme. Pessah, on n'est pas sorti une fois d'Égypte il y a quelques milliers d'années. On le lit dans la Haggadah, on ne fait pas attention à ce qu'on lit. Celui qui ne conçoit pas que c'est lui qui est en train de sortir d'Égypte maintenant, il arrête. Sinon, ça, c'est pas la peine, il ne comprend rien. Il croit que c'est ses ancêtres, c'est 3300 ans, mais en quoi ça me concerne aujourd'hui? Si tu ne comprends pas, Chayav Adam Lirot est un ciment. Si ce n'est pas toi qui te vois en train de sortir d'Égypte maintenant, Pessah, il ne fait pas sortir de la tête, comme on dit en anglais, pas sauvé. Tu l'as raté. Et Shavuot, c'est la même chose. Shavuot, on n'a pas reçu la Torah une fois. C'est pas Chag Ta'amim. C'est-à-dire que dans 20 jours à peu près, on va recevoir à nouveau la Torah. Et la Torah qu'on va recevoir dans Shavuot de cette année, 5767, ça sera pour toute l'année la qualité, la quantité, la mesure de la Torah qui sera la mienne. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais des Kiddushin de Torah pendant toute l'année, que j'écris des choses, j'écris des livres, que je donne des théories, ça dépend de quoi? De la Torah que j'ai reçue l'année dernière en 5766. Ça veut dire que la Torah de l'homme est le selon qu'il aura fait, préparé comme Midot. Et maintenant, je veux m'attacher à ces liens-là. Moralité, vous voyez la différence. Je vous ai posé la question au début du cours. Quelle est la différence entre Pessah et Shavuot? Elle est très simple, la différence. Pessah, on a reçu tout gratuitement. Et Pessah et Shavuot, on reçoit la Torah selon notre mérite. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Torah mipi ha-gvura shamal. La Torah, nous l'avons reçue par la Gevura. Qu'est-ce que c'est la Gvura? La rigueur. La rigueur, ça veut dire la mesure. Qu'est-ce que c'est le Midot? Tikkun ha-Midot. Les Chachamim nous disent que pendant cette période-là, de Sfirat HaOmer, qu'est-ce qu'on étudie? Maseret Avot. C'est-à-dire la Mishnah qui parle de des Midot. Qu'est-ce que c'est les Midot? Les mesures de quoi? On a un centimètre, on mesure. Il y a quoi, la misère de l'homme? Les qualités de l'homme? Pourquoi faire? Pourquoi ça s'appelle des Midot? Midot, ça veut dire mesure. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, mesure?
C'est par rapport à la grandeur de l'homme.
Qu'est-ce que c'est une Mida? Qu'est-ce que c'est une Mida? D'abord, on va commencer en hébreu. On va commencer en hébreu et dire enfin, la racine du mot Mida, d'où elle vient? Attention, ne vous répondez pas juste parce qu'il y a toujours des pièges. En hébreu, c'est beaucoup plus profond que ce que vous pensez. Madine. Qu'est-ce que c'est Madine? Des uniformes. C'est-à-dire l'amida égale uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, le vêtement de l'homme, c'est celui qui va le dévoiler, qui va l'habiller, c'est avec lequel il va se dévoiler dans la vie. C'est-à-dire on fait toujours des choses à l'envers. On veut sortir dans la rue pour qu'on nous voit, et qu'est-ce qu'on fait? On se cache. On s'habille. C'est bizarre.
C'est
Madim la racine. Velavas à Kohen, Nido Bad. Qu'est-ce que ça veut dire Nido Bad? Le Kohen, quand il allait au Beth Amidash, il fallait qu'on lui fasse des vêtements sur mesure complètement. Pourquoi? Nous dit le Chachamim, un homme qui a une tenue ou trop grande ou trop petite. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Et là, il est trop petit, il est coincé. C'est le trop grand, on dirait un clown. Il est paumé dans son uniforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, tous nous sommes ici, si nous avons des kélims qui sont trop grands pour nous, c'est comme si les enfants rentraient dans les chaussures des parents, et ils marchent dans la maison comme ça. Tiens, vous voyez bien que ça ne va pas. La lumière est trop petite par rapport au clip. Et si c'est l'inverse, vous mettez des chaussures, alors que vous faites, je ne sais pas à quelle pointure, vous mettez des petites chaussures, au bout de 2 mètres, vous essayez de faire plus bouger. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas réaliser sa vie si les mesures de sa vie ne correspondent pas à ce qu'il est. C'est très, très important ce que je suis en train de vous dire ici. C'est la base même de toute la Torah. Et c'est pour ça qu'avant la Torah, avant Shavuot, on va travailler nos mesures. Et c'est ça maintenant le tikkun de nos mesures. Combien de mesures il faut arranger? 49. Il y a 49 jours du Homer. Comment se qui se divise les 49 jours du Homer, il y a une journée qui est clé, qui est phare au milieu. C'est laquelle? L'Agba Homer. Alors enlever sans l'Agba Homer, combien de jours il y a avant? Non, avant. 32. Et après 17. 4. Lève, c'est 32. Tov, 17. Ça veut dire que toute la Sphirata Homer, c'est lève, Tov. C'est tout. C'est arriver à avoir un bon cœur. Ça veut dire que si tu ne travailles pas ton bon cœur, ou tu ne travailles pas ta mida de lève, la mesbet 32, et Tov, après l'Agba Homer, c'est le bien, tu vas rester à faire travailler? Tu n'as rien compris à la Sphirata Homer. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. La mida, il me sert à quoi? Vous avez compris? Selon la mida, regardez, ce verre a une mida, on est d'accord? Il mesure à peu près 33 cm. Donc je peux recevoir combien d'eau? 33 cm. C'est tout! Ça veut dire que selon la mesure que tu auras, c'est exactement ce que tu vas recevoir. Akadosh Baruch Hu ne veut pas te donner un millimètre de plus, ni un millimètre de moins. Donc arrêtez de râler. Qu'est-ce que vous avez ce que vous méritez. Je parle de vous, mais c'est moi. C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que maintenant, si ça ne me plaît pas, si ça ne me plaît pas, je me dis, écoute, je n'ai plus envie de contenir 33 centilitres. Moi, ce qu'il faut pour devenir une bouteille de 1 litre et demi. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais élargir mon midot. Qu'est-ce que ça veut dire élargir ce midot? Quoi, je vais aller faire de la musculation? C'est quoi? Et alors, comment, qu'est-ce que je fais pour les agrandir? Par quoi j'agrandis mes midot d'abord? Avant, on a un coup. Vous rentrez tout de suite dans le piège. Qu'est-ce qui fait la différence entre un élève qui va étudier et qui va tout comprendre et un élève qui va étudier et qui va rien comprendre? En tout cas, qui n'aura pas... Avant, un mot. Le raton, c'est selon le désir que tu as. En réalité, vous avez vous apercevoir que toutes les choses que vous avez eu le plaisir dans votre vie, c'est parce que vous les avez attendues et vous les avez demandées et vous les avez attendues, espérées. Et vous avez eu un ration tellement fort qui s'est développé pour cette chose-là que quand elle arrive, tu la touches. Mais si tu n'attends pas cette chose-là, je viens, je te dis, c'est un problème. Imaginez-vous maintenant que vous mangez. Et je vous amène maintenant un grand restaurant. Tu rentres au restaurant, t'as même plus envie, tu vois des trucs de roi, des réceptions, des matins, tu te dis, mais j'ai mangé, j'en peux plus. Et même si t'as mangé deux falafels, je te dis, j'ai raté ma soirée avec des falafels de rien du tout, alors que j'ai un repas ici. Tu peux plus. Ça ne marche pas. La Torah, c'est la même chose. Tout va dépendre de ce que je veux, de mon désir, du feu intérieur qui m'anime, concernant la Torah que je veux recevoir. C'est tout. Je vais vous dire, c'est un secret de la vie. Quand vous voulez quelque chose très fort, vous l'avez.
C'est comme si
j'étais là, mon cœur, c'est la vie, c'est la vie. Alors ça, c'est le désir. Donc l'homme, en réalité, qui fait sa vie? L'homme lui-même. L'homme et la femme construisent leur propre vie. Et ce qu'on va être capable de recevoir dans notre vie, c'est tout simplement ce qu'on a présenté comme une centime. Tu présentes 2 litres, tu recevras 2 litres de lumière. Tu présentes un camion, citerne, on va te remplir ton camion citerne. Chacun vient avec son clé, il va recevoir son clé. Vous voulez avoir des containers de Torah? Il faut que tu travailles comme un container. Tu vas avoir une petite Torah parvée comme le petit capuchon ici, juste rempli un petit goutte d'eau. Eh bien, tu ne fais aucun effort. Tu vas arriver à Chagat Shavuot, tu vas être un petit juif parvé. Okay. Qui va venir le soir, il va il perd sa vie. Hein. C'est exactement ça le secret d'être. Ça, c'est ce qui va t'en. Maintenant, je vais vous donner un secret. Dieu est infini. C'est l'unité. Nous, nous sommes la pluralité. D'accord ? On est deux. Déjà, dans le minimum du pluriel, c'est deux. Comment l'infini peut rentrer dans un ustensile qui est fini ? Comment Kadosh Baruch Hu peut me rentrer dedans, entre guillemets ? Comment Kadosh Baruch Hu peut se dévoiler en moi ? Je suis fini, je suis un homme, je n'ai rien. Qu'est-ce que je suis, moi ? Je vous pose la question. La chaîne heureuse, la chaîne n'est pas finie. Ça veut dire qu'en réalité, je vais travailler par rapport à quelque chose. Je vais travailler par rapport à une lumière intérieure qui est en moi. Je vous pose beaucoup de questions, mais c'est important quand ça vous fait participer. Une lampe électrique, vous savez comment ça marche ? Il y a un plus et un moins. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Un filament. Ce zigzag-là, ce filament, s'appelle une résistance. Alors il y a un grand secret en électricité. Si je veux recevoir, par exemple, une ampoule de 100 watts, 100 volts, dans la maison, la résistance que vous lisez à chaque fois, qui dit une ampoule de combien ça ? De combien de quoi ? Non, de combien de résistance ? La lampe, pour éclairer 100 volts, elle doit résister 100 volts. C'est incroyable ça. C'est très bizarre. Ça veut dire que c'est un monde à l'envers. On ne comprend pas, il y a un paradoxe ici. Je vais vous donner un exemple. Je veux projeter un film. J'ai le film qui sort de l'appareil. Et jusqu'à quand il va ce film ? Jusqu'à ce qu'il trouve un écran. Tant qu'il n'a pas trouvé un écran, je ne vois rien. Or l'écran c'est l'inverse. C'est comme s'il bloquait le film. Et tu vois qu'en réalité, c'est en bloquant le film qu'il se réalise. Et maintenant, c'est un petit peu plus concret. Quand vous respirez, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes obligé, au bout de quelques secondes, d'expirer. Vous ne pouvez pas respirer infiniment. Pourquoi, si tu veux recevoir de l'air, de l'oxygène, tu n'as qu'à remplir ton corps et c'est tout. Pourquoi tu dois rejeter ? Parce que tu dois résister pour recevoir. Quand vous entendez, qu'est-ce qu'il y a au bout de ces trous de l'oreille ? Un tympan qui vous dit stop. Ça veut dire que si je veux recevoir 200 décibels, il faut que mon tympan soit résistant de 200 décibels. Sinon, je ne ressens rien. Ça, c'est le secret de notre vie. À chaque fois que je recevoir une lumière, je dois me poser la question pourquoi je la reçois ? Qu'est-ce que je fais avec ? Vous demandez à Kadosh Baruch Hu, pensez qu'elle. Ça, dans la maison. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que je veux faire avec ? Pourquoi c'est ce sens secret ? Pourquoi je veux devenir riche ? Qu'est-ce que je fais avec ? Pourquoi je demande à Kadosh Baruch Hu la santé ? Pourquoi je demande à Kadosh Baruch Hu ça ? Posez-vous la question. Si tu veux de la santé juste pour tourner dans la vie, faire le mariole, okay, ta santé, en fait, ne vaut pas le coup d'être vécu. Si tu demandes à Kadosh Baruch Hu de l'argent pour avoir de l'argent et t'acheter encore un truc pour qu'il fasse encore autre chose, et peut-être que c'est pas ça que tu es en train de vouloir devoir faire, tu ne vas pas recevoir cet argent. C'est-à-dire que même quand tu demandes à Kadosh Baruch Hu quelque chose, il faut savoir le demander avec la véritable raison et être honnête avec ce que tu reçois. Parce que si tu reçois les autres qui demandent les choses pour toi, et là je rentre dans ce secret, tu vas être limité à ce que tu es toi. C'est-à-dire, deux élèves, je reprends encore l'exemple. Voilà, vous êtes ici maintenant. Vous êtes en train d'écouter un cours. Il y en a parmi vous qui vont capter ce cours plus que d'autres. Il y a une seule raison. Une seule. Vous savez pourquoi ? L'écoute est plus attentif ? Non. Non. Hein ? Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est qu'on voulait, on ne peut pas confirmer.
Vous êtes venu dans ce cours avec l'idée de retransmettre ce cours, vous allez le recevoir 10 fois plus. Ceux qui sont venus juste pour recevoir le cours, ils vont recevoir, une partie va garder, une partie va partir. Mais si moi je viens sur chaque chose qui est dit, je le marque, parce que moi-même je vais donner un cours, je vous garantis que ça va être le top niveau du cours. C'est-à-dire que quand je rentre à la Yeshiva et que j'écoute un cours du Rav, si je pense déjà en l'écoutant que je dois le transmettre, mais je suis un top niveau. Je vais tout comprendre, je vais poser mes questions, je vais machin, pourquoi? Parce que moi-même, je suis en train de donner le cours. Ça veut dire que j'ai écouté le cours pas pour moi, pas pour mon plaisir, mais pour le partager. Ça, c'est un grand secret de la vie. Si tu demandes à Kadosh Baruch Hu de la parnassa pour toi, tu n'auras pas autant de parnassa que si tu demandes à Kadosh Baruch Hu de la parnassa pour pouvoir aider. Si tu demandes à Kadosh Baruch Hu de la santé pour toi, tu n'auras pas autant de santé que si tu demandes de la santé pour aider les autres à guérir. Et à les tourner, à les aider. Et tous les secrets de la vie se trouvent à l'intérieur de ces degrés-là. Comment je demande et pourquoi je demande. Mais pas un jeu. Honnêtement, tu ne peux pas jouer avec la lumière divine. Tu ne peux pas mentir. Ce que tu dis véritablement, ce que tu es véritablement. Encore un autre secret. Tout à l'heure, je vous ai dit que si je présente ce verre-là, je vais recevoir exactement la quantité. Mais j'ai une capacité de recevoir ou les esprits du monde dans ce même verre. Comment? En faisant? Non. En coupant la partie basse. Ça veut dire que ça va devenir un tuyau. Ça veut dire que j'ai transformé mon ratson en sinor. C'est le même lettre en hébreu. Ça veut dire que je suis devenu canal. Tout ce que je reçois en fait, c'est pas pour moi. Je kiffe parce que ça passe par moi, mais ça continue. Ça veut dire que si je deviens un canal de lumière, toute l'abondance divine dans tous les domaines, elle va passer par moi. Je vais bénéficier de cette lumière parce qu'elle me transforme. Okay, elle passe par moi. Mais en même temps, je reçois toutes les eaux du monde et je peux partager toutes les eaux du monde. Jamais c'est limité. Moralité. La mesure, même d'autres qu'on doit recevoir, travailler maintenant, avant Hagat Shavuot, ce sont des mesures qui vont nous préparer à recevoir que nous avons décidé de recevoir, tout simplement. Yosef, Nisselo Nasnulo. C'est une règle. Yosef, on lui a donné de quoi? Quel est Yosef? Pourquoi Yosef a reçu ce qu'il a reçu? Nisselo Nasnulo. C'est lui qui a préparé ce qu'il a reçu. C'est-à-dire, c'est lui qui a présenté les colis pour devenir Yosef à sa vie. C'est tout. Si lui n'était pas présenté comme ça, qu'il avait fait les efforts dans sa vie pour ça, posez-vous les questions, les gens qui ont des choses dans leur vie, posez-leur les vraies questions. Vous allez voir que c'est des gens qui ont bossé, qui ont souffert, qui ont tout fait pour arriver à ce degré-là. Alors vous les voyez à 50, 60 ans, vous dites, oh là là, celui-là, il a réussi. Mais comment il a réussi? Je crois que c'est comme ça. Ceux qui arrivent gratuitement et facilement ne restent pas. Prenez un enfant et il veut un avion. Il veut un petit avion, un petit garçon, il veut un petit avion. Deux manières de faire. Ou tu vas avec lui au magasin, et tu dis bon, lequel tu veux. Allez, prends, donne, combien ça fait? 47 heures, allez, j'en ai. Combien de temps il va le garder cet avion? 10 minutes, un quart d'heure, tac, 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 c'est fini, l'avion il est parti. Deuxième façon. Viens avec moi, ma fille. Tu vas chez un menuisier. Ça fait du bois avec lui. Ça fait de la colle. Ça fait des machins. Et avec le fils, je passe 2 jours, 3 jours, 10 jours à construire l'avion. Avec lui. Toute sa vie, il va garder sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, il s'est investi, il a construit quelque chose. Alors, je vous raconte des histoires de petits enfants, mais c'est notre vie. Toute notre vie, c'est comme ça. Ce que tu as véritablement voulu dans ta vie, que tu as travaillé pour l'avoir, tu l'auras. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que l'un des noms du Yetzer Hara, c'est Chinam, le gratuit. Quand tu reçois quelque chose gratuitement, sache qu'il y a un danger. Et c'est pour ça que le lettre Chinam s'appelle dans le Zohar Nahama de Kisufa, le pain de la honte. C'est un pain de honte. Un autre exemple, parce que les exemples, ça marque. J'ouvre un restaurant, et je vous invite. Okay? J'invite, c'est ma cousine. Okay, j'ai des amis. Viens manger au restaurant. Premier soir, tu viens manger avec ton mari. Tu manges au restaurant. Tu viens pour payer. Tu dis, ça va pas, ma cousine. T'as pas honte. Ok, pas de problème. Demain, tu reviens. Tu remanges. Tu viens pour payer, tu dis, ça va pas, ma cousine.
Voilà.
Elle a donné déjà la réponse. Ça s'appelle le frein de la honte. Ça veut dire n'a rien fait pour recevoir ce truc-là. Donc, si vous viens un petit peu gratuit, tu ne reviens pas. C'est bizarre. Normalement, un petit peu du zéro, c'est gratuit, j'y vais. C'est pas marrant. Vous avez honte. La même chose avec la lumière de Dieu. Tout ce que vous recevez, que vous ne faites pas quelque chose pour le recevoir, cette chose-là ne reste pas. C'est-à-dire que les vraies choses dans notre vie, ce sont les choses sur lesquelles, pour lesquelles nous avons travaillé. Et nous avons participé. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Géoula de Pessah, elle est petite par rapport à la Torah de Shavuot. Parce que Pessah, on a reçu un petit peu gratuitement. Alors que Shavuot, on a travaillé pour avoir ça. Et ça, c'est le degré de Midot. Le degré de Midot, le travail de Midot, c'est ça. Le contenant va décider en fait combien de lumière il aura. Combien de contenu. Oui, qu'est-ce que ça veut dire des midotes gratuites? Donnez-moi une idée. Oui, mais c'est pas gratuit, vous avez travaillé pour arriver à ça. C'est mieux? Non, je parle pas de ça. Je parle pas de faire quelque chose gratuitement. Je parle comment vous avez acquis cette mida d'avoir le respect pour votre copine. Est-ce que vous avez travaillé dans votre vie pour atteindre ce degré de respecter l'autre ou pas? Il y a des midotes qui sont naturelles. Mais il faut les débloquer. Mais ça, c'est que les midotes naturelles que vous avez, c'est pas celle pour laquelle vous êtes descendu dans ce monde. C'est pas du tout facile. Il faut travailler pour arriver à respecter l'autre, à donner du poids à ce que dit l'autre. Quel on est beau, cabot. Cabot avec du mot cabot. C'est-à-dire que c'est du poids. Autrement dit, je dois travailler. Mais encore une fois, je vous ai dit vite fait, les choses qui sont un petit peu faciles dans votre vie, ce n'est pas celles pour lesquelles vous êtes descendu. C'est-à-dire que si naturellement, vous dites oui à tout, sachez que ce n'est pas votre tikkun. Votre tikkun, c'est de savoir dire non. Il y a des gens, très badass, il y a des gens qui ne savent pas dire non. Et ça, c'est leur poison. C'est ça leur maladie. Il y a des gens pour lesquels dire oui, c'est ça la bénédiction. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent oui à tout et qui sont prêts à faire plaisir à tout le monde, mais qui ils vont tuer en premier? Eux-mêmes. Et ça, c'est pas une nature normale. Ça aussi, c'est une faiblesse. Savoir dire non, je ne peux pas. Et pas dire oui, je vais me débrouiller, ça va, et toi tu cours, et tu m'en à l'un, à l'autre, après tu repars, t'as un rendez-vous, tu le reportes, tu peux pas, etc. C'est fini, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui vivent dans un tourbillon de folie. Pourquoi? Ils n'ont pas de gvoura, ils n'ont pas de rigueur, ils ne savent pas dire non, je ne peux pas. Pas du tout, c'est une faute, là. Parce que tu vas finir par décevoir. Mais non, c'est faux. C'est faux parce que tu vas décevoir de toute façon. À la fin, tu ne pourras pas. Alors que si tu es honnête et tu dis je ne peux pas le faire, même si je te déçois aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Il ne faut pas avoir peur de décevoir. Il y a des gens, c'est leur avodah zara. C'est la peur de décevoir. C'est la avodah zara. C'est-à-dire qu'ils ne servent plus Dieu, ils servent les autres. Ils ont peur des autres. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce que ça signifie? Comment on va dire? Comment on va parler de moi? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Ça, c'est de l'arbre d'un. C'est pas vrai. Bon, je ne sais pas. Je ne connais pas. Moi, mes rabbinis ne parlent pas dans ce sens.
Ça, c'est une idée quand elle est extrême, elle rejoint une adhéra en fait.
D'accord.
Et le fait de trop donner, c'est comme si tu donnais rien.
Je vais t'expliquer quelque chose. Si tu donnes de l'amour à quelqu'un, okay, mais tu ne sais pas donner des limites à cet amour, est-ce que c'est de l'amour qui reçoit? Tu le tues. Tu l'étouffes. Comment on dit en arabe? Il a voulu l'embrasser, il l'a aveuglé. Il y a des gens qui vous courent dessus comme les petits enfants, paf, ils rentrent le coude dans l'œil ou l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'étouffement parce que ton amour est un amour en fait possessif, c'est pas un vrai amour. Comment j'aime vraiment quelqu'un? Quand je lui donne ce qu'il est capable de recevoir. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous aime ou ne nous aime pas? Il nous aime, puisque je vous ai dit tout à l'heure que chacun va recevoir exactement ce qu'il mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça le vrai amour de Dieu. Si Dieu nous donnait plus que ce qu'on pouvait contenir, qu'est-ce qu'il serait? On exploserait. C'est pas débordé. C'est comme une lampe qui peut soutenir 60 watts et qui met 200. Elle explose, ça ne suffit plus. Et donc ça, c'est le secret de cette vie-là. Encore un petit degré dans cette anecdote-là. L'amida, encore une fois, Dieu est infini, moi je suis fini. Alors comment ça marche? Comment je vais recevoir quelque chose? Comment je peux recevoir sa lumière? Eh bien, mais je suis quand même limité. On a une âme, d'accord? Le raton, le tintum, d'accord. Mais c'est juste une contraction de ce travail-là. Il y a une règle très très importante, très très importante. Le kli, l'ustensile, donc l'amida, elle doit être la plus large possible, on est d'accord? C'est-à-dire plus mon kli est un kli individuel, moins je peux recevoir de la lumière. Ça c'est le. Il y a des gens qui préconisent une Torah individuelle. C'est-à-dire une Torah où moi je fais mon petit truc, je fais ma petite page de Mara, c'est mon petit matin, c'est moi le soir, mais shalom alaikum, merci, c'est fini. Ils font les autres, on n'a rien à faire, c'est même pas des trucs, c'est même... Occupe pas, il n'y a pas de peuple. Il y a des individus. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Catastrophe. Exactement. Qu'est-ce que c'est un clip? Vous savez ce que c'est clip? Ce sont les initiales. Ce sont les initiales de 3 degrés. Clip. Car. L'Amen, lui. C'est tout le peuple d'Israël. Cohen, Lévi, Israël. C'est ça le Kli. Tu veux devenir un vrai Kli, d'être relié à ton peuple. Si tu n'es pas relié à ton peuple, tu ne vaux rien. Tu es un individu et tu veux recevoir la lumière divine, mais pour qui tu te crois? Quel orgueil t'anime pour individuellement vouloir la lumière divine qui, elle, donne à tout jusqu'au bout. Elle donne à manger aux chenilles, aux fourmis, aux de feu, fumis, jusqu'au gamour et nid. C'est-à-dire, même les lampes, à qui beaucoup les nourrit, sinon elle ne serait pas vivante. Et toi, tu viens individuellement, égoïstement, avec ton petit désir à toi, Rasa. Le mot Rasa, Restinaïm, qu'est-ce que c'est? Rassonne de l'atmo, c'est tout. C'est celui qui ne pense qu'à lui. Ça veut dire que l'égoïsme, il n'y a pas plus grand lieu que Ferrara et Richou que ça. Pour ceux qui ont fait du coup. C'est pour ça que je dis que ceux qui sont faibles dans le pouvoir dire non, eux doivent travailler ça. Mais ceux qui naturellement disent non, eux, il faut travailler de l'autre côté. Ça veut dire qu'il faut une Ida. Qu'est-ce que c'est une Ida? Non, mais qu'est-ce que c'est une Ida? Une Ida, c'est être mesuré. L'expression en français, elle est très bien. Quelqu'un qui est démesuré, ça veut tout dire. Alors, on n'est pas en train de parler d'extrême, on est en train de parler de mesure. Or, mesure égale appartenance à tout. Si tu es extrême, tu n'appartiens qu'à un coin. On est d'accord? Est-ce que Dieu peut se manifester dans des coins? Dieu ne se manifeste jamais dans des extrêmes, il se manifeste toujours au milieu. C'est un grand secret, ça. Ça veut dire dans la mesure, jamais dans l'extrémité. Quand tu es dans l'extrémité, tu es une pointe. Tu n'es pas le tout, tu n'appartiens plus au tout. Où est-ce que la roue, quand vous prenez un cercle, où est-ce qu'il y a un point dans la roue qui appartient à tout? Que le point du milieu. Donc c'est exactement le merkaz, c'est le centre. Mmh. Et plus tu es centre, plus tu es au centre de tes mesures, plus tes mesures sont saines, elles sont mesurées. Plus tu sors, tu es déporté. Mmh. Comment on dit déporté en hébreu? Dévié.
Sauter.
La racine du mot Satan. C'est tout. Qu'est-ce que c'est le Satan? Vous croyez que c'est un volatile avec des ailes? Un homme qui sait nager en hébreu, un sochet, on l'appelle Tachian. Un roquet, quelqu'un qui danse, on l'appelle Rakdan. C'est quelqu'un qui dévie un sauteur, on l'appelle Satan. C'est l'homme lui-même le Satan. Quand il a dévié du chemin, de la mesure, il est déjà dans la skia, il est déjà dans la démesure. La femme sota, c'est une femme qui est sortie à dévier. C'est tout. Vous voyez qu'on ne sait même pas parler l'hébreu. Et l'étude de la Torah, c'est l'étude de l'hébreu. C'est l'étude de la racine des mots. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Lachon HaKodesh. Et dans cette Lachon HaKodesh, il y a tous les secrets de la vie. Et si on savait tout simplement faire un ulpan de la racine de tous les mots, moi c'est comme ça que j'enseigne la Torah, en reprenant la racine de chaque chose, ça change complètement tout. Complètement. Qu'est-ce que c'est Torah, par exemple? Comment on dit la Torah? Oraita. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas du tout. Ça veut dire lumière, tout simplement. C'est la lumière de Dieu. Quelle est la qualité naturelle de la lumière? Donc, de diffuser, de donner. Si toi, tu es quelqu'un qui ne pense qu'à recevoir, tu es l'inverse de la lumière. Alors, qu'est-ce que tu viens te présenter pour qu'est-ce que te donne quoi? Elle ne peut pas te donner la lumière. Quand est-ce que la lumière qui diffuse va te donner? Quand toi-même tu deviens diffuseur. Toi-même, c'est tout. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Hashvat Hatsura. Quand ta forme devient comme la forme de Dieu. C'est-à-dire, tu veux que Dieu te donne, donne. Tu veux que Dieu te bénisse, bénis les autres. Tu veux que Dieu te donne, réjouis les autres. C'est ça la règle de ce monde. Tout ce que tu lances dans l'espace, c'est ce qui va te retomber dessus. Il y a des gens qui râlent tout le temps quand ils ont un plat. J'espère qu'il n'y aura pas d'os. Eh bien, mon vieux, l'os va venir chez toi. C'est comme ça. Ils ont invité. C'est en partage, ça va ensemble. Ils entendent même dans les ondes, ça va. Je rigole, mais c'est la vérité. Sachez que vous invitez tous les problèmes tout seul. Les gens invitent ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Tout ce que tu balances dans l'air, c'est ce qui va te recevoir. Qu'est-ce que c'est la pluie? D'où elle vient la pluie? Hein? Ah! Donc la pluie, elle vient du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Ça veut dire c'est quoi? C'est tout simplement les vapeurs qui sont montées qui reviennent, comme dans votre barbe. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui nous pleut dessus? Ce que nous avons émis. Tout simplement. Ça veut dire de faire très attention de ce que tu balances dans l'espace. Tu parles du Lachonara, tu amènes du Lachonara sur toi. Tu dis du bien, tu amènes du bien sur toi. Tu fais les choses honnêtement, tu seras entouré que de gens honnêtes. Tu es un embrouilleur, tu seras toujours dans des mafieux. Toute la vie, elle est comme ça. Il y a des gens qui râlent tout le temps, ils sont toute la journée en train de râler, tout le mal va venir vers eux. Les gens qui sont heureux et qui génèrent de la joie et du bonheur et de bonnes paroles, le bien vient sur eux. C'est une règle de la nature. C'est une vraie règle, je vous donne ici des clés, avec un langage simple, parce que je ne veux pas rentrer dans les énigmes, mais ce sont des règles de tout ce qu'on doit travailler pendant cette période du Omer. Alors, on ne rentre pas dans tous les détails, qu'est-ce que ça veut dire, mais on essaye de trouver toujours quelque chose qui va donner un point de lumière, une joie, telle à quelqu'un, pour le ramener vers la vie. Et là où on a vu, c'était dans un marché, et il a vu un chacham. Et il lui dit, il y a un avis dans ce marché, il lui dit, viens, je te montre un petit truc. Sacrez-toi dans ce marché-là, Mahamé Yuda. Qui a le droit au Lamaba? Allez, vite, dis-moi. Ah, il a commencé à regarder les barbus, les machins, les chapeaux. Il y a un seul. Il y avait un clown. Il faisait rire les gens. Mais tout ça, c'est une histoire, on va voir. parce qu'il faisait réjouir les gens, il leur donnait de la simcha dans la vie, il avait droit au lamaba. J'avais un de mes maîtres, le chronon Libraha, qui disait, un rave qui ne sait pas rire n'est pas un rave. Ça veut dire que la manière de faire passer la Torah doit toujours être agréable. Ne te prends pas au sérieux, ne te prends pas la tête comme si tu étais. Toi, dans la simplicité, il y a un seul patron dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Et celui qui se prend pour une lumière, on l'éteint très vite. Raïti. Et l'ionim le mata de tartonim le mal. Ça, c'est cette période-là. Alors, on est maintenant dans une période spéciale. L'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, et moi, c'était Rabbi Meir Ba'alame. Il faut attaquer dans les noms, amen. Vous avez deux lumières, deux grandes lumières, qui nous ont en fait donné des clés. Alors, ces clés-là, elles montrent, et avec ça, je vais terminer le cours, que pour être un gadol, il faut appartenir à tout le monde. C'est-à-dire que même un petit enfant de rien du tout, et même un adulte le plus sage, quand le petit va parler, le petit va prendre du plaisir, et aussi le grand vieux kabbaliste, qui est capable de faire du plaisir. Rabbi Shimon Bar Yochai. J'avais des petits gamins, depuis 3 semaines, ils ramassent des bouts de bois, ils ne savent même pas pourquoi. Pour allumer un feu, ils ne savent même pas pourquoi. Parce qu'ils sont inspirés par quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Hein. Mais c'est un feu caché, le Rabbi Shimon Bar Yochai. Et les grands kabbalistes, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, ils poussent tout autant, la même chose. Et les deux vont faire la même chose, mais à différents niveaux. C'est-à-dire ceux-là, les grands kabbalistes, ils vont savoir quelle est l'énergie de la matière. Et les petits gamins, ils vont aussi voir l'énergie de la matière, ça va être le feu. Ils vont voir le bois sortir son énergie. C'est la même chose. Un homme qui est capable de toucher le plus petit et le plus grand, ça c'est une notion messianique. Ça c'est le Mashiach. C'est pas par hasard que Mashiach c'est les mêmes lettres que sa mère, la joie. C'est-à-dire que la joie amène cette simcha. Comme ma cousine m'a demandé de parler un petit peu des Nishamot, okay. Alors, de ce qui se passe, la Nishama c'est quoi? La Nishama, elle est beaucoup plus grande que le corps en fait. Les sages nous disent que ce qui rentre dans le corps, imaginez-vous que ce petit capuchon c'est le corps, ce qui rentre dans le corps c'est que le pied. Imaginez-vous que le corps c'est la chaussure et que la Nishama c'est tout le corps, comme ça nous dit le kabbaliste. C'est-à-dire que la Nishama elle est immense et ce qui rentre dans le corps c'est toute petite partie. Seulement elle est importante cette partie. Pourquoi? Parce que c'est la seule partie qui peut révéler les choses. Il faut profiter de ce monde tant que la Neshama est dans le corps. Le Gaon de Vilna, juste avant de mourir, s'est mis à pleurer. Et les élèves lui ont dit, mais le Gaon de Vilna, toi tu pleures? Il dit oui, parce que maintenant je peux m'acheter un talit katan à 20 shekels. Quand je serai de l'autre côté, je ne peux plus faire cette Neshama. Même un petit talit katan de rien du tout à 20 shekels. Alors que quand on est vivant, on néglige le talikata, on néglige des petites choses. Vous savez pourquoi on est obligé de rentrer les petites kiosques dans un cimetière, leur aller nous voler un peu? Justement, à cause des morts, pour ne pas leur faire regarde. Toi, tu ne peux plus faire cette mitzvah, tu coûtes presque rien. Et moi, j'étais en train de te faire narguer avec ça. Ça veut dire qu'il faut profiter tant que nous sommes vivants pour comprendre les grands secrets de la lumière. Ceux qui sont partis, en réalité, nous entendent. Comment on fait ce cours, les îlots du chemin, quel matin, le chemin du bracha, sa neshama est présente, elle sent, elle entend. Et chaque fois qu'on dit des paroles, ça fait monter sa neshama un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Et cette neshama là, où elle va? Où elle va? Jusqu'où elle va? Quel est le plus haut degré de la neshama? Je vais vous choquer. C'est quand elle reviendra dans le corps. C'est ce qu'on appelle Tchiyat HaMetim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait revenir les morts? Vous savez pourquoi? Parce que malgré la grandeur de la Neshama, le plus important, c'est quand tu sais relier cette âme au corps. Je suis en train de vous donner un secret. Quand tu relis l'énergie à la matière, quand tu n'es pas seulement un beau parleur, quand tu agis dans ta vie, tant que tu n'as pas d'acte, de mesure qui sont ici, tu peux me raconter toutes les salades du monde, tu peux étudier la Torah toute la journée, du matin au soir. Si ta vie ne correspond pas à ce que tu fais, il y a des gens qui étudient du matin au soir, et quand ils sortent, ils sont capables de pousser dans un supermarché une femme enceinte parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils ont un cours de demain. Ça vaut rien. La vie est plus importante. La Torah, c'est pas un livre. La Torah, c'est la vie. Etraïm. Vive la Machadikouma. Donc il faut qu'on change un petit peu nos visions des choses, qu'on comprenne que le sens, le vrai sens de la vie, quand on nie les mondes, quand on nie les mondes, ça veut dire le Olam Abba dans le Olam Hazeh. Mais Rabbi Shem, avec ces lumières-là de Rabbi Shimon, de Rabbi Meir, de tous les Gdolim qui sont de ce monde, on souhaite à Rabbi Shem que justement toutes ces Nechamot se reviennent dans les corps pour qu'on réalise le Olam Abba dans le Olam Hazeh. Le but, c'est pas de se sauver de la matière, c'est de dévoiler l'énergie divine qui se trouve dans la matière.
C'est la même terre,
on revient dans le corps. D'accord. Seulement, la question c'est dans quel corps on va revenir. Alors, je vais vous expliquer. Tu peux utiliser cette note ? Je vais la déchirer. Les Nechamot sont très larges. Elles sont très très grandes. Il se peut que 200, 300, 400, 500 personnes et la même âme, une seule. C'est-à-dire tous les gens qui sont ici, peut-être, vous êtes, vous faites partie de la même Neshama. Seulement, elle descend dans plusieurs corps. Alors, imaginez-vous qu'il y a un homme qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak, il fait partie de cette grande Neshama, mais le voilà, il est que là. Quand Yitzhak va faire son tikkun à lui, on va prendre sa Neshama et on va la mettre dans l'armoire en haut, il a fini. Seulement, il n'a pas tout fini. Il a fini la moitié de ça. Donc, ça, on va la mettre dans l'armoire. Et il va revenir dans ce monde sur quelqu'un d'autre. Une petite partie qu'il a ratée dans le gilgoul d'avant. Quand tout le monde va faire une partie de ce travail, en réalité, on va être 200, 300, 1000, 200, je ne sais pas combien, sur une seule âme. Et en réalité,
on ne sait pas combien,
mais chacun, à la fin des temps, va savoir qu'on fait partie de la même maison. Tu dis, toi, tu as corrigé le côté matin que j'étais pas. Moi, j'ai corrigé l'autre partie. C'est comme un corps humain où les doigts se parlent entre eux. Exactement. Imaginez-vous que le pouce dit à ce doigt, salut, comment tu vas? Toi, tu es en train de t'occuper de ça? Regarde, on va faire un travail ensemble. Et les deux pouces vont dire à l'oreille, tu sais, on est du même corps, seulement toi, tu es devenu oreille dans ce monde, et moi, je suis devenu petit doigt. Et ça, c'est le secret des Nechamot. Ça veut dire que, et le kabbalisme dit que tous les gens que vous voyez dans votre vie, et que vous continuez avec eux, vous montez dans le bus, vous les côtoyez, vous avez au téléphone, machin, ce sont des gens qui sont un tikkun avec vous. Et les gens avec lesquels vous avez un problème, essayez de corriger ce problème avant de partir de ce monde. Pourquoi? Parce que vous risquez de revenir en Gilgoul avec eux encore une fois dans une autre histoire. Et je vais vous raconter une histoire et cette fois-ci vraiment je termine parce que j'ai un coup. Je vais vous raconter une histoire. Un jour le Baal Shem Tov a dit à son élève, demain tu ne viens pas à l'étudiant. Pourquoi, Kvod Arav? Demain, tu vas au bord de la rivière. Et tu ne bouges pas. C'est ta leçon de demain. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais attention, tu ne bouges pas. Tu verras des choses, tu ne bouges pas. L'élève se lève le matin très tôt, il va, il se cache, il y a un arbre, il voit la rivière, là où le Baal Shem Tov lui a dit. Et il attend, un peu plus, des heures. Puis d'un coup, il y a un cavalier qui arrive. Il descend du cheval et qui regarde comme ça, il ne voit personne, le petit est caché, et il se baisse pour boire un petit peu d'eau de la rivière, et en dessous de sang, il fait tomber une bourse d'or. Et l'élève, il veut lui dire, Adonis, le Baal Shem Tov, il me dit, ne pas bouger. Je ne peux pas bouger, je n'ai pas le droit de bouger. Le petit monte sur son cheval, et s'en va. Il attend, il voit la bourse. Au bout d'une demi-heure, il y a un autre qui arrive. Il regarde la bourse, il vient pour boire lui aussi, il trouve la bourse. Il arrive, il regarde tout autour, Le type, il voit tout, hein. Il n'a rien le droit de dire. Il y a quelqu'un a perdu, il crie, il n'y a personne, machin. Il met la bouche dans son truc et il s'en va. Au bout d'une heure, il y a un troisième type qui vient. Et qui lui aussi se met à boire. Seulement le premier qui a perdu la bourse, il revient en courant. Il a fait le headbang dans sa tête. Il se dit, j'ai perdu la bourse là-bas, je reviens vite. Il attrape celui-là et il le tue de coup. Elle est où ma bourse? Ah, ça, c'est l'autre qui voit tout. Il dit, c'est pas lui, c'est l'autre. Et le type, il voit tout ça. Et il revient chez le Baal Shem Tov la nuit. Il dit, Kodara, vous m'avez tué la journée. Elle, je ne comprends rien. Hier, je ne comprenais rien. Aujourd'hui, je comprends encore moins que rien. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Il dit, pourquoi? Il dit, voilà, il raconte l'histoire. Il dit, rien t'explique. Celui qui a perdu la bourse, il devait cette somme d'argent à celui qui est venu après qu'il a pris. Dans le boule d'avant, ils sont venus dans ce monde parce qu'il y a volé là-bas. Et donc, il a récupéré son argent. Il dit, mais le troisième, il a reçu des coups. Il dit, c'était le juge. Il n'a pas su juger le jugement. Il a donné raison au premier. Donc maintenant, il a reçu des coups. Tada Rabba. Mais madame,